14h-15h sur Europe 1. La voie est libre.
La voie est libre continue, nouvelle page. William Scheller vient de publier son autobiographie William aux éditions des Équateurs. C'était l'occasion de le rencontrer. On a fait un peu de route avec Fabien Duchesne, l'ingénieur du son, et ça valait le coup. Bonjour William Scheller.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
Ça fait plaisir de voir du monde.
On est au milieu de la forêt, pas très loin d'Orléans.
Oui.
Et dans une jolie maison avec un petit jardin et tout. On a vu sur les arbres. C'est magnifique. Et là, on est dans votre salon où on trouve des bibliothèques et des livres. Mais il y a une décoration particulière et il y a notamment ce cadre qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est?
C'est une image
de Lovecraft, un peu comme ça.
Non, c'est Philippe Drouillet, ça. C'est une lithographie. Qui d'ailleurs est un collector. C'est lui qui me l'a offerte. C'est un collector parce qu'il y a une faute d'orthographe dans l'impression. Bref. Mais c'est tout signé. Et en fait, c'est ça, son concept ou son extrapolation à partir de l'île des morts de Böcklin, dont j'ai de l'autre côté une version peinture d'origine. Enfin, d'origine, c'est pas la vraie. Mais à partir de là, il est parti et puis il a construit un truc à Drouillet, quoi. Enfin, machin. Ouais. Ça, c'est un buste de Drouillet. Si on peut dire. C'est un dôme cristal qui s'appelle Chaman. On a beaucoup travaillé ensemble.
Alors, on est là pour parler des livres. Quel est votre rapport à la littérature?
Ah, c'est important. Ça a été ma première compagnie. Parce que je voyais très très peu ma mère et mon beau-père. Et je vivais chez ma grand-mère qui, elle, travaillait au théâtre des Champs-Élysées. Et tous les jours à 7h, elle partait. Et je me retrouvais tout seul dans son petit appartement à lire n'importe quoi. Mais n'importe quoi! Alors, il y avait des trucs genre Harlequin. Et puis, quand même, je regardais. Il y avait des volumes d'un truc qui me paraissait intéressant parce que je croyais ça pour un grand livre sérieux d'histoire, quoi. Ça devait se passer au XVIIe siècle. Ah, alors je regardais ça et je me suis lu entièrement Marquise des Anges, par exemple, à 12 ans, en trouvant qu'il y avait quand même des détails qui étaient quand même assez curieux pour l'époque, quoi. Ah ben dis donc, ils vivaient une drôle de vie. Alors quand ils s'en sont rendus compte, ils m'ont acheté des collections... collection verte, signe de piste, enfin des machins comme ça, où c'était des scouts, alors il y avait une vague histoire, et puis après c'était des bagarres entre scouts, ils allaient se baigner tout nu dans la rivière, je me disais, enfin qu'est-ce que c'est que tout ce bazar, quoi. Mais je lisais aussi bien des pièces de théâtre qu'elle me rapportait à Marie Stuart, c'est Victor Hugo, elle me rapportait le prince de Hombourg, des choses comme ça. Donc c'est un mélange incroyable. J'avais aussi, des Drouakine et la comtesse de Ségur, tout ça. Mais tout ça, c'était un mélange. Et puis j'écoutais beaucoup la radio. Si je n'écoutais pas les livres, si je ne lisais pas les livres, j'entendais quand même des histoires. Pierre Bellemare, qui racontait, alors c'était un petit peu à la mode à l'époque, qui racontait, et peut-être pas encore, qui racontait le troisième œil de l'absent grand pas. Alors tout seul dans la radio, la vieille radio en bois avec un œil vert.
C'était plus l'histoire qui vous intéressait dans les livres que la sonorité des mots pour l'instant.
Pour l'instant, oui.
En tout cas, vous aviez des goûts éclectiques. Et on les retrouve ici dans votre bibliothèque. Il y a beaucoup de romans, des Pléiades. Il y a Colette ici, on va en reparler. Je sais que vous aimez beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de livres d'histoire, de chroniques d'histoire.
Très bien, j'aime bien les deux.
Qu'est-ce que c'est que cette collection de petits livres rouges très, très jolis?
Elle n'est pas terminée. Bon, c'est une collection qui a été... Cette collection qui a été créée et éditée de façon très sérieuse, parce qu'il y a des pages et des pages et des pages pour expliquer comment ça a été imprimé. Mais en fait, ça s'appelle, c'est Louis-Sébastien Mercier, très peu connu.
Tableaux de Paris.
Oui, les tableaux de Paris. Il y en a deux volumes, et ça va de 1883 jusqu'à 86, mais pas la Révolution. Parce que pendant la Révolution, il est devenu un peu politique. D'ailleurs, il a fait un petit peu la Bastille, enfin, etc. Il y a des lettres qu'il écrivait à sa femme, qui lui apportait ses dîners. Et ensuite, il a fait Le Nouveau Paris, qui est un peu...
Ce sont des chroniques, en fait.
Ce sont des chroniques, oui. Oui, mais enfin, il a écrit quand même des pièces de théâtre. Il a écrit des romans, 2024, qui n'est pas très intéressant. Mon bonnet de nuit, par exemple. Bon, ça, c'est critique de théâtre. Il a fait... Bon, le Nouveau Paris, c'est très intéressant, ça.
Il y a beaucoup, beaucoup de livres sur les compositeurs, sur les grands compositeurs.
Bah, c'est normal.
Vous allez chercher quoi dans leur vie? Des idées, des inspirations?
Non, il faut au moins savoir qui écrivait quoi, dans quelles circonstances, et puis comment il écrivait, et son entourage, quoi.
Vous avez Beethoven, Prokofiev, Lully, oui. Tchaïkovski, Chopin, Ravel, je n'ai pas de soucis à dire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, Mozart, évidemment.
Ah oui.
Ce sont des amis, ces compositeurs-là?
Oh, c'est, tout, c'est savoir.
Des
quoi.
Maîtres
savoir.
Quel rapport vous avez avec eux?
Ben, c'est-à-dire leur histoire, leur suivi, tout ça. Ben, mon maître était un élève personnel de Gabriel Fauré, qui lui-même était un élève de Camille Saint-Saëns, lequel était un élève de Franz Liszt, lequel on n'en finit plus. Mais j'aime bien savoir, et puis, leur concept de l'époque, les ennuis qu'ils ont pu avoir de leur temps, avec ben, ce pauvre Prokofiev qui meurt le même jour que Staline, on n'en a pas parlé.
Oui,
oui c'est vrai. C'est incroyable. L'avènement, alors Lully, l'avènement de l'opéra et l'avènement de la mise en français sur la musique, parce qu'avant c'était en italien, ou alors c'était du Moyen-Âge, c'est autre chose.
Vous parlez un peu de Lully quand même, c'est sous Louis XIV.
Oui. Oui, ben, quand Louis XIV a voulu structurer la langue française, de façon à ce que la France, toute la France puisse parler français. Voilà. Et donc les opéras étaient commandés en français, et Lully avait du mal à se débrouiller, lui qui était italien. Et il a dit, bon, ben, ça va, une syllabe par note, et ça marche. Et c'est vrai que ça marche. Ça, c'est intéressant.
Enfin, et ça pose la question du rapport de la musique au pouvoir aussi, puisque Lully, c'était le compositeur officiel, finalement.
Bah tiens, c'est bien de débrouiller pour. Mais oui. Plus personne ne pouvait donner de spectacle avec plus de 4 ou 5 musiciens. Il n'y a que lui qui avait le droit d'avoir des grands orchestres, etc. D'où ça brouille avec Molière. Enfin bon, c'est tout un monde. Donc il faut, quand on connaît l'un, on attrape l'autre. Quand on connaît l'autre, ben, on recherche sur un autre. Enfin, ça ne finit plus. Tout ça, c'est imbriqué.
On retourne dans la bibliothèque d'en face et je vois beaucoup, beaucoup de romans de Colette.
Oh oui.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Colette?
Chez Colette, on ne lit pas les mots, on vit les histoires.
Ah, c'est beau ça.
Ah oui, c'est vrai. Ça coule d'une telle façon qu'on voit, on voit des films, on voit des... On ne s'arrête pas. Aussi, il y a quelques mots, des fois, qui sont surprenants ou qui sont régionaux. Mais en principe, j'aime Colette, je vis l'histoire. Tiens, non, encore.
Pour les MacLeod.
Oui, encore, oui. Mais au milieu de la salle, je sais pas ce que ça fout là. Mais oui, non, Colette, c'est... Je l'ai en séparé. Évidemment, j'ai une grosse collection dans une grosse édition.
Une collection bouquin.
Voilà. Et puis...
Vous la relisez régulièrement?
Ah oui. Oh, la maison de Claudine, qui commence par... La maison était grande, coiffée d'un grenier haut. Ça, boum, on a l'image.
Il y a beaucoup de beaux livres. Et puis, il y a des vinyles aussi.
Oh oui, bah, ceux qui me restent.
Ben voilà, c'est ça, il n'y en a pas tant que ça finalement.
Ben non, ben c'est après les enfants passent et puis je pique ça. Et je te pique ça.
Vous avez des William Scheller ou pas?
Non.
Vous gardez pas vos,
non.
vos disques? Vous savez pas où
non.
ils sont?
Non, il y en a un ou deux.
Vous réécoutez pas vos anciennes chansons et
non,
tout? Jamais.
Elles sont sur Internet, on s'en fout.
Mais vous, parfois vous dites pas, tiens, j'ai envie de me réécouter, je me rappelle plus.
Faire le point éventuellement, mais... Faire le point quand j'ai dit je décide. Je vais jouer les Greta Garbo. Je dis, j'arrête.
Oui, vous n'avez même pas de piano, vous m'avez dit ici.
Oui, j'ai plus de piano. J'ai vendu mon piano à Liège. Le piano est parti à Liège. En échange de quoi, j'ai fait venir un petit piano de roi comme ça, histoire de, pour vérifier de temps en temps une ou deux notes. Mais je ne joue plus. Du tout. Ça me... Non. Voilà.
Maintenant, vous prenez le temps de lire.
Ah oui. Ah, je prends le temps de relire des choses, de lire des choses que je n'avais jamais lues. Ouais, que j'avais achetées en me disant, tiens, un jour je vais. Et puis le jour, c'est pas trouvé. Enfin bon, oui, c'est. Je relis de temps en temps bah, les pièces de Feydeau. Bon, ça m'amuse. Je relis quoi? Bon, Ernest Ansermet, c'est formidable ça. Ça explique, par exemple, que la musique ne monte pas, ne descend pas.
Ça veut dire quoi?
Ah.
Monter d'essence, c'est grave et aigu, quoi.
Oui, mais ça monte pas. C'est une amplitude de vibration.
Ah oui.
Ah oui.
C'est une fausse image.
Eh ben, à cause de la pesanteur. Parce que tout ce qui est fin, on le pense en haut, et tout ce qui est gros, on le pense en bas. Donc si on avait vécu sur la Lune, on aurait entendu la musique différemment, je veux dire, dans sa tête. Hein. Il n'y aurait pas eu les graves et les aigus. Ça monte pas, ça descend pas. Alors il explique un tas de choses. Enfin, bah, c'est bien, bien, bien fichu. Bien fichu. Ah bon, ouais, enfin, c'est encore de la musique, quoi. Et puis alors, il y a quand même...
Ah, vous avez Sioran, de l'inconvénient d'être né.
Il m'a suivi toute ma vie. Il m'a suivi toute ma vie. Franchement, un texte que j'aime bien, c'est l'amour. Alors c'est plus l'amour, cet échange de salive qui trouve son absolu dans la misère des glandes. Hein?
Ah mais il est sombre, Sioran, forcément.
C'est pas sombre, c'est rigolo. Mais c'est cru. Mais c'est. Hein, c'est pas vrai? Bon. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça.
Rien que le titre est magnifique, de l'inconvénient d'être né.
Ben évidemment, ça m'a suivi toute la vie. Ça m'a aidé beaucoup à passer outre les blessures. Passer outre les blessures de la vie, quoi. Enfin, les blessures. Mais, bah oui, c'est l'inconvénient d'être né, quoi. Et il dit, moi, c'est, j'étais bien avant qu'on m'a fait naître. C'est vrai qu'on se trouve projeté comme ça, boum, à moitié à mort, aveugle. Alors, j'étais bien, j'étais dans le ventre de ma mère. Encore là, ça allait, parce qu'elle allait tous les soirs au Théâtre des Champs-Élysées pendant la dernière semaine de grossesse. J'étais baignant. Et elle allait voir un ballet de Stravinsky qui s'appelait Jeu de cartes. Donc Stravinsky déjà a commencé à me titiller les oreilles assez tôt, je veux dire. Oh non, j'aime bien.
Sioran, il fait partie de ceux qui pensent que la vie, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est votre cas aussi ?
Oui. Ben oui, c'est une mauvaise plaisanterie. On nous lâche là, puis alors qu'est-ce qu'on a au bout quand on réalise ? Ah ben, il n'y a plus qu'à crever. Voilà. Alors, et puis il faut meubler. Et je ne sais plus qui disait ça.
Il n'y a pas de drame dans Sioran, quoi. Ou alors c'est tellement tragique que ça en devient...
Oui, bah c'est de la tragédie antique. Et puis on en fait ce qu'on en veut. Mais on en fait ce qu'on en peut aussi. Mais je ne sais plus qui disait, je ne pense pas que c'est lui, que le malheur de l'homme était de croire qu'il était sur Terre pour y faire quelque chose. C'est quand même vrai. Alors tout de suite, il faut.
Il faut trouver un sens absolument. Quoi.
Ouais. Alors quand on a quelque chose qui nous dépasse,
l'art.
Ah oui. Alors à ce moment-là, on a une base, on a quelque chose à se raccrocher, et puis on est poussé, oui, ça c'est autre chose. Mais une vie où on va se dire, bon ben, faut que je me trouve un boulot quand même, ça doit être difficile, oui je crois.
Merci William Scheller.
Oh ben.
Merci pour la visite.
Il va falloir dormir. Il est encore. Hein.
Ah bah, bientôt, avec plaisir.
Europe 1. De retour en studio, et je rappelle le titre de l'autobiographie de William Scheller. William, c'est facile. Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. A tout de suite, nous partons à la 25e heure.